VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 29 novembre 2022, Coupe du monde de football. Le Sénégal, première équipe africaine qualifiée pour le 8e de finale. Les Diamba ont disposé de l'Équateur 2-1. Au Tchad, les avocats dénoncent le procès de plus de 400 personnes qui se tient dans la prison de Korotoro en plein désert.
Ils ont été arrêtés et déportés sans aucun respect de règles.
Gozo Tourndide, avocat au barreau de N'Djamena au Tchad, que nous retrouverons dans la partie magazine. Au Mali, les magistrats décrètent une grève de 5 jours. La justice américaine a inculpé 3 citoyens américains d'origine camerounaise accusés d'avoir collecté des fonds pour les séparatistes. Visite d'État du président français aux États-Unis. Emmanuel Macron quitte Paris ce mardi. Bonsoir, bienvenue. On commence par le spécial Coupe du Monde avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le verdict est tombé. Les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour le 8e de finale du Mondial 2022 en battant l'Équateur 2-1 lors de la 3e et dernière journée du groupe A.
C'était un match de dénouement dans le groupe A. Le Sénégal, le champion d'Afrique en titre qui devait absolument gagné pour se qualifier, s'est imposé grâce à un penalty d'Ismaïla Sarr juste avant la mi-temps. C'était à la 44e minute, puis par Kalidou Koulibaly à la 70e. Abdourahmane Dia est notre envoyé spécial à Dakar. Bonsoir Abdou. Bonsoir Abdou. Abdou, vous m'entendez?
Oui, c'est absolument fou ce qui se passe ici à Dakar. Je viens de quitter d'une fan zone non loin d'ici et en fait après le match, c'était l'explosion de joie et après des défilés spontanés à travers les rues, c'était fou et ça continue vraiment et ce sera une chaude nuit ici à Dakar et beaucoup de personnes à qui j'ai parlé en fait ont pensé immédiatement à Pape Bouba Diop, le premier buteur de l'équipe du Sénégal en Coupe du Monde en 2002 face à la France. En fait, cela fait exactement 2 ans qu'il est décédé et ce match était dédié en quelque sorte à Pape Bouba, mais également à Sadio Mané. On peut beaucoup penser à ces deux absents qui ne sont plus là et qui auraient bien aimé être là pour fêter cette victoire et la qualification du Sénégal au second tour.
Il y a une auditrice qui est amatrice de football, c'est Allô? Eva Ndiaye. Eva Ndiaye, vous êtes là, vous nous suivez?
Oui, je vous suis, mais vous entendez après.
Votre sentiment?
Sentiment de joie. Je ne peux même pas exprimer ma joie parce que, vous savez, le Sénégal est un pays de foot et tout le monde attendait cette victoire. C'est pourquoi je félicite l'équipe du Sénégal qui a tout donné. Ils ont fait un grand match, vraiment. Je les félicite et je les souhaite aussi bonne chance pour les prochains matchs. Voilà.
Merci Eva. Je suis également en ligne avec Tarsis Haririmana, journaliste olympique indépendant et spécialiste du football. Il est à Ottawa, au Canada. Tarsis, bonsoir.
Oui, c'est avec joie, Eric, qu'on salue la victoire du Sénégal. Une courageuse équipe qui produit un beau football face à l'équipe de l'Équateur, vous l'avez dit, 2-1. Mais c'est un couronnement aussi pour Alioune Cissé, entraîneur local qui a 7 ans à la tête de cette sélection, qui joue sans Sadio Mané, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que la championne d'Afrique souhaite maintenant une percée dans cette Coupe du Monde, pourquoi pas 20 ans après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde.
Le Sénégal a souffert en seconde partie, mais les Lions ont été libérés ou délivrés par le but de leur capitaine Kalidou Koulibaly. Le Sénégal va disputer sa 2e huitième de finale en Coupe du Monde après 2002, Tarsis, mais sans Gana Gueye qui sera suspendu.
Oui. Et surtout, on pensera encore une fois le deuxième meilleur joueur du monde, évidemment, qui est absent. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai aimé, ce que j'aime au Sénégal, ce que j'aime malgré les critiques qu'on a lancées à l'UCC, il faut voir les réseaux sociaux, c'est d'abord la confiance à l'entraîneur. Et je pense que c'est l'expérience qui va compter, et surtout un bloc décisif qui travaille bien. On sent la collectivité, on sent le courage au sein de cette équipe. Et puis le Lyon, c'est aussi aller très loin dans cette Coupe du Monde. Pourquoi pas, sans même les meilleurs joueurs du monde.
Tarsis, vous êtes également l'auteur du livre en cours d'édition, L'Afrique à travers les Jeux Olympiques. Vous décrivez votre passage au Sénégal, le musée que vous avez visité. Il y a le football dans ce que vous dites.
Oui, le football. D'abord, il faut dire que le Sénégal, c'est une image qui nous lie au continent américain. Le Sénégal, c'est autre chose. C'est des grands noms, que ce soit au niveau du sport, mais au niveau de la littérature aussi. On a des références et évidemment, quand on visite l'île de Gorée, on pleure. Mais on a de la joie quand on voit ces jeunes jouer du bon football, surtout en Coupe du Monde. Et surtout, rappelez-vous, il y a 20 ans, ils avaient battu la France, ce pays qui les avait colonisés.
Merci à Tarsis pour toutes ces précisions. Je rappelle que dans l'autre rencontre, les Pays-Bas ont battu le Qatar, déjà éliminé avant le match. Les Néerlandais gardent la première place du groupe A. Pour l'instant, Jean-Roger, dans ce groupe, sont les Pays-Bas et les Lions de la Teranga qui vont poursuivre la suite de la compétition. À suivre également ce soir, l'Iran deuxième et les États-Unis troisième du groupe B, qui s'affrontent pour la seconde fois. L'affiche ne s'annonce pas comme un sommet footballistique, mais cette rencontre sera un moment fort du Mondial 2022 au Qatar, avec pour enjeu bien plus qu'une qualification en huitième de finale. Une défaite serait synonyme d'élimination. L'Angleterre vise la première place d'un groupe avec une victoire dans le derby face au Pays de Galles, dernier, mais qui peut se qualifier s'il gagne.
Rapage des sports signé Eric Manirakiza. À présent, la suite du journal. Au Tchad, le procès de plus de 400 manifestants arrêtés lors des manifestations violemment réprimées du 20 octobre débute ce mardi à la prison de Korotoro pour manifester leur mécontentement. Les avocats ont décidé d'interrompre leur travail pendant ce procès collectif. Les détails avec Nani Talani.
Quelques 400 et un détenus seront jugés jusqu'au 4 décembre à Korotoro, une prison de haute sécurité en plein désert, à plus de 600 km au nord-est de N'Djamena. Selon les procureurs, les accusés doivent répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont la participation à un rassemblement non autorisé, destruction de biens, incendie criminel et troubles à l'ordre public. D'après le procureur général, 621 personnes ont été arrêtées et transférées à Korotoro. Il précise que des enquêtes sont en cours pour quelques 220 personnes, dont 83 mineurs, arrêtées lors de l'appel à manifester pacifiquement des groupes d'opposition le 20 octobre. Le général Mahamat Idriss Déby Itno avait accusé les manifestants d'insurrection et de tentative de coup d'État. Dans son communiqué, le barreau du Tchad qualifie ce procès de parodie de justice et affirme que les détenus ont été enlevés et déportés à Korotoro en l'absence de tout avocat. Le procès dans cette prison isolée viole les règles de procédure, selon l'association des avocats tchadiens, qui a décidé de cesser toute activité pendant la durée du procès.
Du 29 novembre au 5 décembre, les deux syndicats de la magistrature au Mali sont en grève. Les magistrats maliens manifestent pour le retrait de la loi modifiant les règles de fonctionnement de la Cour suprême. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, nous en dit plus.
Selon le syndicat libre de la magistrature et le syndicat autonome de la magistrature, la loi incriminée viol, une autre loi portant statut de la magistrature et porte atteinte à l'indépendance de la justice et au caractère impersonnel de toute loi. Selon les magistrats, cette loi vise à modifier l'âge de départ à la retraite des membres de la Cour suprême, alors que, selon le statut de la magistrature, l'âge pour partir à la retraite est à 65 ans. D'après un syndicaliste, il s'agit d'obliger les membres de la Cour suprême à rester en fonction au-delà, même s'ils veulent faire valoir leur droit à la retraite. Pour les syndicats, il faut plutôt procéder à un recrutement pour étoffer ce corps qui compte 513 magistrats. Si aucune solution n'est trouvée, les deux syndicats prévoient de boycotter les activités organisées par la Cour suprême, y compris la rentrée judiciaire initialement prévue ce 2 décembre. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
La France a confirmé aujourd'hui l'arrestation de ressortissants français au Mali, tandis que Bamako évoquait l'interpellation de 4 personnes, membres selon la junte d'un groupe de criminels et de narcotrafiquants. Le Quai d'Orsay n'a fourni aucun autre détail, notamment sur le nombre exact de personnes concernées. La justice sénégalaise a condamné ce mardi 3 membres de la garde rapprochée du principal opposant politique Ousmane Sonko à 1 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires après des heurts avec des partisans du pouvoir, a indiqué à la presse leur avocat. Les gardes avaient été arrêtés le 3 novembre pour des violences survenues fin octobre près de Nbou où l'opposant Sonko était en tournée. Ici aux États-Unis, 3 Américains d'origine camerounaise ont été arrêtés et accusés d'avoir collecté des fonds pour les combattants séparatistes du Cameroun, indique le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Nathalie Barge.
Les inculpés sont Claude Chi du Missouri, Francis Cheny du Minnesota et Lanestor Langmi de l'État de New York. Ils auraient collecté des fonds pour des armes et explosifs selon le communiqué du ministère de la Justice américain. En plus de quelques 350 000 dollars que les accusés ont collectés grâce à des dons volontaires, l'acte d'accusation allègue que Chi, Cheny et Langmi ont conspiré avec d'autres personnes pour kidnapper des civils au Cameroun, indique le communiqué. Dans certains cas, des citoyens américains ont été extorqués pour le paiement de rançons afin d'obtenir la libération de leurs proches kidnappés au Cameroun. L'argent a été transféré aux séparatistes pour financer leurs opérations. Les 3 accusés occupaient des postes de direction dans une organisation qui soutenait le groupe des forces de restauration ambazonienne et d'autres combattants séparatistes dans la région du nord-ouest du Cameroun. Ils collectaient des fonds pour eux depuis 2018, précise le communiqué du ministère de la Justice américain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Emmanuel Macron se rend à Washington ce mardi pour sa 2e visite d'État, dont il espère profiter pour pousser son plaidoyer diplomatique sur la guerre en Ukraine et aborder ce que Paris qualifie de protectionnisme américain. Jacques Aristide.
Le chef de l'État français aura droit ce jeudi à tous les honneurs d'une telle réception, avec coups de canon, dîner de gala et entretien avec son homologue américain Joe Biden dans le bureau ovale. Hier, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a décrit Emmanuel Macron comme dynamique, dont le pays, puissance nucléaire, est au centre de toutes les problématiques mondiales, que ce soit la guerre en Ukraine ou la montée en puissance de la Chine. Joe Biden a eu le sentiment que c'était réellement le pays le plus pertinent pour organiser la première visite d'État depuis son investiture, encore dit le conseiller Kirby. Pour Paris, c'est un honneur qui est fait à la France plutôt qu'à tout autre pays européen. Un sujet de friction toutefois, l'Inflation Reduction Act, qui prévoit de généreuses subventions pour les véhicules électriques, batteries et énergies renouvelables produits aux États-Unis. Nous ne resterons pas les bras croisés face à ce plan d'investissement jugé protectionniste, a déclaré la première ministre française Elisabeth Borne. Le voyage d'Emmanuel Macron débute ce mardi à Washington, puis le président français se rendra à la Nouvelle-Orléans.
10 hommes seront jugés à partir de demain mercredi pour leur rôle dans les attentats islamistes qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés en 2016 dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles en Belgique lors de ce qui s'annonce comme le plus grand procès de l'histoire de la Belgique. Ils seront jugés à Bruxelles par un jury populaire et non une cour d'assises composée de magistrats professionnels comme cela avait été le cas à Paris. Et puis le principal organe de sécurité chinois a appelé ce mardi à une répression des forces hostiles après des manifestations contre les restrictions sanitaires et pour plus de liberté dans les grandes villes de Chine. La commission des affaires politiques et juridiques du Parti communiste au pouvoir, qui supervise les forces de l'ordre dans le pays, a affirmé qu'il était nécessaire de réprimer les activités d'infiltration et de sabotage des forces hostiles conformément à la loi, selon le compte-rendu d'une réunion diffusée par l'agence d'État Chine Nouvelle. Dans quelques instants, la seconde partie de cette session d'information n'allait nulle part ailleurs. Restez sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À Yaoundé, la capitale camerounaise, les secouristes recherchent d'éventuels survivants piégés par un glissement de terrain qui a fait dimanche au moins 15 morts et plusieurs blessés. Les victimes assistaient à des funérailles lorsque le glissement de terrain s'est produit. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit avec Nani Talani.
Des civils endeuillés se joignent aux secouristes pour creuser et rechercher d'éventuels survivants piégés sous un énorme tas de décombres. Le sol et les pierres se sont effondrés dimanche soir sur plusieurs centaines de membres d'une communauté de l'ouest du Cameroun qui s'étaient rassemblés pour des funérailles de personnes décédées au cours du mois dernier. Rosette Ngefak, 50 ans, fait partie des personnes endeuillées. Elle dit avoir vu le sol s'effondrer sur des dizaines de personnes, dont ses deux fils.
Il a fendu la tête et cassé la main. On était à l'hôpital général. On a fait le scanner. À 2 heures, c'est sorti. On dit que le cerveau n'est pas touché, mais l'enfant est gravement blessé. Il est encore en réanimation. C'était trop grave. Le motoman est mort sur place et il y avait beaucoup de blessés.
Il est de tradition au Cameroun d'organiser des événements funéraires dans les villes après l'enterrement des membres de leur communauté dans les villages. Les personnes qui assistaient aux funérailles de dimanche ont déclaré qu'elles avaient prié pour les défunts et qu'elles partageaient des boissons et de la nourriture lorsque le malheureux incident s'est produit. Nasri Paul Beya, gouverneur de la région du centre du Cameroun, où se trouve Yaoundé, s'est rendu sur le site de la catastrophe pour la deuxième fois en 15 heures ce lundi matin. Il affirme que les enquêtes menées par la police camerounaise indiquent que certains civils sont toujours piégés dans le glissement de terrain.
Il y a des corps qui avaient été retirés déjà par la famille. Le secours a été vite avec les sapeurs, l'état-major du gouverneur, le préfet régional. Pour le moment, nous sommes en train de transporter les corps à la morgue de l'hôpital central. La troisième tente qui est vers le mur, sur un talus, a donc été touchée par un glissement de terre qui a tué les occupants de ce chapiteau.
Selon le gouvernement, le glissement de terrain s'est produit lorsqu'un talus de 18 mètres de haut s'est effondré sur plusieurs centaines de personnes rassemblées dans une maison construite dans une zone à risque. D'après le gouverneur Beya, le talus qui a cédé n'était pas assez solide pour empêcher le sol de s'effondrer. Le ministère camerounais du logement a demandé lundi aux personnes vivant dans les zones jugées à risque de quitter immédiatement les lieux ou d'être contraintes de se reloger ailleurs. Yaoundé, une ville d'environ 3 millions d'habitants, a connu des inondations dévastatrices causées par de fortes pluies au cours des 3 derniers mois. Le gouvernement affirme que plus de 25 maisons construites dans des zones à risque se sont effondrées, blessant et tuant des dizaines de personnes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, les grands travaux de préservation d'une partie de la côte du pays, sujette à l'avancée inexorable de la mer, viennent de débuter sur une distance de 15 km vers la frontière est du Bénin voisin. 13 épis de roches seront disposés dans la mer afin de stabiliser la dérive des sédiments et amoindrir l'érosion côtière. À Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Oussou.
Au bout de la rue qui traverse le village d'Agbodrafort, dont une partie a été emportée par la mer, Agbassa Ata Nikwe, président du comité villageois de développement, le regard fixé vers l'horizon, se désole de la situation de sa localité.
Nous avons une côte où nous pratiquons le football. Nous nous amusons là-bas à la plage. Aujourd'hui, on n'a plus de plage. La mer avance à 5 mètres chaque année. Moi qui vous parle là maintenant, j'ai perdu des hectares de terrain. C'est englouti dans la mer. Moi je suis inquiet.
Les inquiétudes d'Agbassa Atanikoué sont partagées par tous les habitants des villages côtiers du Togo où la mer avance par endroits de 12 à 30 mètres par an au point critique. Le gouvernement, à travers le programme de gestion du littoral ouest africain Waka, avec l'appui de la Banque mondiale, vient de lancer les travaux de protection d'urgence de la côte. Adou Raimi Alimi Assimiou est le coordonnateur du projet Waka au Togo.
Aujourd'hui, les travaux que nous avons tant souhaités ont commencé fort heureusement. Et je crois qu'à partir de là, les attentes des uns et des autres, surtout les communautés, qui étaient tellement impatientes que les travaux commencent aujourd'hui, je crois qu'au moins tout ça est dissipé.
À Aného, les camions déchargent déjà d'énormes blocs de pierre sur la plage. César Ezebio, l'ingénieur génie civil senior du projet, donne des détails sur les travaux à effectuer.
Entre Agbodrafo et Pémé, nous prévoyons construire 7 nouveaux épis. Entre les épis, c'est prévu donc de faire le chargement en sable de mer. Maintenant, côté Aného, il y a 6 épis qui seront réhabilités allongés. Il y a également le brise-lame qui également va être réhabilité, donc prolongé de 200 mètres. C'est prévu la construction d'une digue de sable au haut d'environ 5 mètres.
À terme, ces ouvrages vont permettre aux localités touchées par l'érosion d'avoir un répit d'au moins un demi-siècle. Tranquillin Vincent, ingénieur chargé de l'exécution des travaux.
Les épis et le brise-lame ont été l'objet de tests miniature dans un laboratoire en France. Et les études de faisabilité technique avaient dimensionné ces ouvrages pour une durée de 50 ans. Par contre, les rechargements de sable entre les épis, ce rechargement a été dimensionné pour une durée de 20 ans.
Pour Dame Nyame Kokwe qui vit à la plage d'Aného, c'est un ouf de soulagement.
Nous remercions les initiateurs du projet Waka pour les solutions qu'ils sont en train de mettre en place pour que la mer ne nous envahisse plus. C'est vrai que le bruit des engins nous dérange, mais je pense que ce sera fini bientôt.
Dame Kokwe devra prendre son mal en patience car les travaux sur la côte togolaise vont durer 18 mois. Kossi Boussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Si le Sénégal a attendu plus de 60 ans avant de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations de football, il est par contre le pays le plus titré du continent en beach-soccer. Avec 7 titres à son actif, l'équipe nationale du Sénégal de beach-soccer vient de gagner la dernière Coupe d'Afrique qui s'est tenue le mois dernier au Mozambique. Pour comprendre l'hégémonie du Sénégal sur le beach-soccer africain, Abdou Rahman Dia, notre envoyé spécial à Dakar, s'est rendu sur une plage de la capitale sénégalaise et y a rencontré quelques pratiquants. Reportage.
Le Sénégal a une façade maritime longue de 700 km. Avec de moins en moins d'espace disponible pour jouer au football, c'est au bord de cette façade maritime, comme ici sur la plage de Diamalaye, dans la banlieue dakaroise, que beaucoup de jeunes viennent jouer au football. Cela a donné l'opportunité à beaucoup d'entre eux de se faire remarquer et d'être sélectionnés dans l'équipe nationale de beach soccer. Et pourtant, l'ultime rêve de la plupart de ces jeunes, c'est d'aller au-delà du beach soccer et de devenir footballeur professionnel et d'intégrer l'équipe nationale. C'est le cas de Hassan.
Ça me permet d'être en forme. Puis je viens ici pour jouer au football. C'est mon rêve. Je le fais quand je vais à l'école. Je passe deux ans de centre de formation. Et quand je viens ici, je viens pour m'amuser. Mon rêve, c'est d'aller en équipe nationale.
Suleiman aussi espère devenir un grand footballeur professionnel. Il est d'ailleurs dans une école de football, mais il vient souvent à la plage pour pratiquer davantage et maintenir sa forme physique.
Au Sénégal, beaucoup de personnes aiment le football.
Moi, j'aime le football depuis 2010. Je pense toujours que je peux y réussir. Je suis même dans une école de football à Grand Yoff. Je m'entraîne là-bas mercredi, samedi et dimanche matin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas allé là-bas. Mon rêve, c'est d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal.
Seulement, le football de plage n'est pas sans risque. Ici, il y a très peu de règles et beaucoup se retrouvent avec des blessures qui finissent par briser leur rêve de devenir footballeur professionnel.
Ils n'ont pas des jours et ils viennent ici pour viser fort. Ils ont avec la force, ça, si on est venu ici pour se brader, quoi. Pour se tuer au foot, c'est juste notre rêve, quoi.
Je peux gagner une meilleure forme physique ici avec les entraînements, mais il y a un risque aussi. Si tu te blesses, personne ne va te soigner. Ils vont juste s'excuser, te demander pardon, juste comme ça.
Le football est le sport roi au Sénégal. Le beach soccer permet à ceux qui rêvent de devenir professionnels et ceux qui viennent juste pour pratiquer une discipline qu'ils aiment de se retrouver ensemble sur la même aire de jeu. Abdourahman Dia, VOA Afrique, Dakar.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sous la chaîne 555 de Canal.
L'administration Biden souhaite obtenir du Congrès une nouvelle aide de 37 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine dans les semaines à venir avant le début de la nouvelle législature en janvier. Reportage Michel Quinn, récit Jenny Niwa.
C'est l'hiver en Ukraine où la lutte contre l'invasion russe se poursuit depuis 9 mois. Le Congrès américain a accordé un soutien bipartisan à l'aide à l'Ukraine, mais cela pourrait changer. Certains dirigeants du Parti républicain qui détiendront une faible majorité à la Chambre lorsque la nouvelle législature débutera en janvier disent qu'ils examineront de près les programmes proposés par l'administration Biden pour venir en aide aux Ukrainiens. Mike McCall, un républicain du Texas, est le membre le plus important de la Commission des affaires étrangères de la Chambre basse. Le voici à l'émission This Week sur la chaîne ABC.
Nous allons assurer plus de contrôle, de transparence et de responsabilité. Nous n'allons pas faire un chèque en blanc.
L'aide précédente à l'Ukraine a été approuvée avec un large soutien bipartisan. L'administration Biden espère l'octroi de 37 milliards de dollars d'aide d'urgence pour l'Ukraine afin de s'assurer que ce pays et son armée disposeront d'un financement pour les prochains mois. Ce package comprend 21,7 milliards de dollars pour l'armée, le renseignement et d'autres soutiens de défense et 14,5 milliards de dollars d'aide humanitaire et pour le gouvernement ukrainien, selon l'administration Biden. Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de l'administration Biden, a réitéré le soutien américain à l'Ukraine lors d'une visite à Kiev au début du mois.
Les États-Unis resteront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra dans ce combat. Il n'y aura ni hésitation, ni indécision, ni vacillement dans notre soutien à mesure que nous avançons.
Bien qu'il y ait une certaine opposition au soutien de l'Ukraine dans les deux parties, certains républicains ont critiqué la taille des programmes d'aide antérieurs à l'Ukraine et demandent si tout l'argent est effectivement allé à la nation en difficulté. Ils s'interrogent également sur le suivi fait par l'administration Biden quant à l'utilisation de cette aide. De nouveau, le député Michael McCall.
Nous allons le faire de manière responsable avec transparence envers le peuple américain. Il s'agit de l'argent du contribuable américain. Est-ce que cela diminue notre volonté d'aider le peuple ukrainien à se battre? Non. Nous allons le faire de manière responsable.
Selon des responsables ukrainiens, des travaux de réparation étaient en cours ce week-end pour rétablir le réseau électrique perturbé par les frappes de l'armée russe. La Russie a en effet bombardé plusieurs zones dans l'est et le sud de l'Ukraine durant les dernières 72 heures.
Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Fagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VO.